Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre le mercredi de 10h à 16h sans interruption. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. Je vous donne le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre, le 01 47 07 39 55. 01 47 07 39 55, le lundi et le mercredi. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Émilie Fraîche, auteure du livre « Un homme dangereux », également auteure d'un essai sur 24 jours « La vérité sur la mort d'Ilan Amili ». C'est elle qui a effectué le scénario du film d'Alexandre Arcadi. Faut rappeler que Ilan Halimi a été assassiné il y a 10 ans. Triste mémoire, mais ce n'est pas pour cette histoire qu'Émilie est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ce livre qui a été édité aux l'édition Stock, excusez-moi, Un homme dangereux. Alors dans ce livre, il y a une femme qui possède absolument pratiquement tout ce qu'une femme peut posséder pour être heureuse, un mari chirurgien cardiologue, 2 beaux enfants, accessoirement un amant, et elle rencontre au hasard dans un café un homme qu'elle connaît, mais de loin.
Bonjour. En fait, elle a aussi également dans cette panoplie du bonheur un métier qu'elle adore, puisqu'elle fait des films. Et à l'occasion de la sortie du film qu'elle vient de faire sur son père, enfin en tout cas inspiré de son papa, elle fait la rencontre par l'intermédiaire d'un producteur, d'un homme écrivain qu'elle connaît publiquement parce qu'elle l'a déjà lu, éditorialiste, voilà, quelqu'un qui a priori n'a absolument rien pour lui plaire parce qu'il a 20 ans de plus qu'elle. Ses idées, a priori, elle ne partage pas vraiment ses idées. En tout cas, elle ne s'inscrit pas dans la même tradition. Elle pressent déjà à la première rencontre que c'est quelqu'un d'assez cynique, d'assez désinvolte. Elle, c'est plutôt une femme d'engagement. Lui, je dirais qu'il se range plutôt du côté de l'humour, et elle est vraiment beaucoup plus au premier degré. Donc c'est une rencontre un peu improbable, et pourtant dès cette première rencontre dans ce café, elle sent une sorte d'attirance véritable, et elle sait qu'elle doit partir.
Oui, elle sait qu'elle doit partir. Néanmoins, vous allez nous l'expliquer. Elle reste.
Dès le lendemain. En fait, ce qui se passe, c'est que dès le lendemain, à la fin de... Elle décide de partir, de se lever, parce qu'elle ne veut pas rester assise à la même table que lui, parce que son inconscient lui envoie une sorte de warning. Il faut partir. Il lui dit, mais c'est dommage, j'ai même pas vu votre film. Bah, envoyez-le-moi. Et puis, il y a une sorte d'un peu de petite pique d'humiliation, parce qu'il lui dit « Ah, c'est marrant, j'ai même pas entendu parler de ce film, je ne sais pas qu'il est sorti. » Donc, elle se sent évidemment touchée dans son estime. Et donc, elle décide le lendemain matin à son bureau, il lui a donné son adresse, de lui envoyer une copie de son film. Et évidemment, il va bien sûr la rappeler très vite et mettre en place une relation d'emprise absolument terrifiante, parce qu'il va installer une sorte de dépendance affective en la harcelant de textos, des textos extrêmement flatteurs et bienveillants au début. Et quand il va voir que cette dépendance affective est certaine, il va la mettre dans une insécurité totale, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Il ne va plus donner signe de vie. Il ne va plus répondre à ses textos, ou il va y répondre 3 jours plus tard. Et puis, surtout, fuir toujours la rencontre. Ce qui m'intéressait aussi dans cette société extrêmement sexuée, où on parle beaucoup des rapports physiques entre les gens, enfin en tout cas au sein du couple, dans nos sociétés modernes, je trouvais ça intéressant de rendre sa place érotique aussi au verbe. Et comment on peut tomber follement, quel est le pouvoir des mots, comment on peut tomber sous l'emprise, et pas amoureux, mais sous l'emprise de quelqu'un qui a le pouvoir du verbe.
C'est-à-dire qu'on... tout au long du livre, effectivement ne se passe que par les mots. Il n'y a rien de physique pendant tout le livre.
Tout le livre.
Et on voit la montée de cette dépendance de cette femme intelligente qui a tout pour elle. Et j'avoue que moi, en le lisant, je me suis dit, mais comment c'est possible à ce point de se laisser être sous la coupe de cet homme?
Mais parce que si vous aurez noté que dans le livre, il n'est jamais le même. Il oscille tout le temps entre le séducteur, donc quelqu'un qui va envoyer des messages positifs, qui va flatter sa proie, et dans le même temps, juste après, la casser. Et donc, il y a une perte de repère. Nous ne sommes pas habitués dans une société civilisée à recevoir une telle violence verbale à des moments où on s'y attend le moins. Et à chaque fois qu'elle baisse la garde, parce qu'il l'a reséduite, eh bien, il revient et il lui met un coup. Parce que les mots sont des coups. On dit souvent que finalement, parler, c'est bien parce que ça libère et ça empêche le passage à l'acte. Je crois au contraire que c'est exactement l'inverse. Je crois que les mots, la violence verbale précède toujours la violence physique.
C'est sûr.
Et qu'elle est extrême, qu'elle laisse des cicatrices aussi fortes, et que on ne doit pas laisser passer les mots. Les mots ont un pouvoir destructeur, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. Et ce personnage, cette narratrice qui va finir par toucher le fond puisqu'elle sacrifie tout pour cette rencontre, elle finit par quitter son mari, par ne plus voir ses enfants à un moment donné, par ne plus réussir à écrire, par s'abîmer physiquement puisqu'elle a un accident qui est dû évidemment à cette rencontre, enfin qui est lié. Et bien finalement, pour s'en sortir, c'est encore une fois grâce aux mots, puisqu'elle va décider, pour reprendre la main sur lui, d'écrire et d'en faire le sujet de son prochain livre.
Alors, vous disiez que dans cette relation, à la fois, il y avait le côté séducteur et après, on repassait au côté persécuteur, finalement. À aucun moment, en tant que lecteur ou lectrice, cet homme ne nous séduit. Alors, c'est probablement parce qu'on est extérieur à l'histoire.
C'est toujours le principe de l'emprise. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on est bouleversé? Qu'est-ce qui fait qu'on est touché? C'est quelque chose qui est toujours singulier, qui est toujours très très intime et qui, à mon sens, a toujours un rapport quelconque avec sa propre histoire. Évidemment que cet homme ne peut pas toucher tout le monde. Mais je pense qu'il peut toucher un genre de femme. Et c'est pas innocent si... j'ai fait de ma narratrice une femme qui a un rapport à son père extrêmement particulier, qui vient de sortir un film sur lui, qui lui-même a été violent verbalement avec elle. On dit souvent que les gens qui ont subi de la violence deviennent eux-mêmes violents. Si c'est vrai, je crois que c'est dû à cette explication assez terrible, finalement, que la maison de l'enfance, même si elle a été noire, même si elle a été violente, etc., elle est toujours rassurante. Parce que c'est la maison du passé, c'est la maison où on s'est construit, et qu'il y a une forme, voilà. Et cette narratrice, elle se retrouve dans cette situation. On comprend assez bien qu'elle a écrit un film sur son père pour se soigner de son père. C'est une fille qui a mal à son père. Et au moment où elle soigne ça, où elle répare sa relation au père, eh bien, elle substitue au père un personnage qui s'appelle pas pour rien Benoît Parent. Parent, c'est pas innocent, qui va la remettre dans les conditions de son enfance.
Et donc, qui a pour 20 ans
de plus qu'elle. Donc, pour répondre à votre question, on ne comprend pas pourquoi cette fille est attirée par cet homme. On ne le comprend pas parce qu'on n'a pas eu son histoire. Mais si on se penche sur son histoire personnelle, alors ça devient très limpide. Je pense que toutes les femmes qui sont victimes de violences, mais ça marche aussi pour les hommes, dans l'autre sens, ce qu'on est capable d'accepter, c'est en soi qu'il faut aller le chercher. C'est en soi qu'il faut aller chercher les raisons. Évidemment, pourquoi on est capable d'accepter ça? d'aller jusqu'à ce point-là. Il y a des femmes qui, à la première rencontre, voient le bonhomme et diraient « Non mais attends, moi je, au revoir, quoi. » Riraient, se mettraient à rire. Ça ne les atteindrait pas. C'est une fille, ma narratrice, qui est sensible à l'humiliation, par exemple. Qui est réactive à l'humiliation. Parce que c'est un système de rapport humain qu'elle a connu en enfance. Et donc, ça réveille chez elle une douleur. Je pense que les rapports qu'on noue une fois adulte, forcément ont comme référent les rapports qui nous ont construits en tant qu'enfants et qu'on doit se débrouiller avec ça.
Émilie, je vous propose une interruption musicale et nous reprendrons notre entretien tout de suite après.
השמיים כחולים היום ושוב ינואר בלי גשם אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת חלמתי שאני בורחת מכלוב של ציפורים אורשת כל הלילה חיפשתי אותך בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד כתבת איפה את ולא אמרת כלום כמעט וידעתי שאתה שם לבד וידעתי שאף אחת לא תפסה את המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך שומעת עליך מחברים הם אומרים שאתה מקפיד עכשיו על חיים מסודרים שאתה כבר לא מכור לדרמות ולכבישים המהירים יש לך אישה שאתה אוהב משפחה אבל אני מכירה אותך ורואה על מה אתה שומר גיבור חמוש בנעלי בית משתיק קולות ומצנזר ויודעת שאתה חושב עליי ויודעת ש... תופסת את המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך ואף אחת לא תופסת את המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך אני רואה לך את החלומות ורואה ממה אתה פוחד אנשים כמוני פעם היו שורפים על המוקד נשקתי לך את הנשמה ואתה לי ואף אחת אף אחת לא תתפוס ואף אחת לא תתפוס את המקום שלי בלב שלך שלי בלב שלך
nous reprenons notre entretien avec Madame Émilie Fraîche, auteure du livre « Un homme dangereux » paru aux éditions Stock et qui relate l'histoire d'une femme qui tombe sous l'emprise d'un homme plus âgé qu'elle, de 20 ans plus âgé qu'elle, et qui, au fil des mois, n'arrive pas à se sortir de cette emprise. C'est cela que nous évoquions dans la première partie, et c'est là-dessus que nous allons revenir sur cette deuxième partie, de savoir comment cette femme intelligente, écrivain, auteur de films, peut se retrouver sous cette emprise, et cette emprise de plus en plus forte.
Alors oui, c'est intéressant là d'évoquer la manière dont cette femme va pouvoir se sauver. Parce qu'une fois qu'on a décrit, je pense qu'il y a deux temps avec l'emprise pour les victimes d'emprise. Il y a le premier temps, c'est d'être capable de nommer les choses. Or, ce qui est terrible avec la violence verbale, c'est qu'on n'a jamais de preuves, contrairement au coup. Donc c'est très très compliqué de se reconnaître en tant que victime. Et puis, tel le personnage d'un homme dangereux, vous vous retrouvez en permanence face à quelqu'un qui vous dit « Mais oh, t'as aucun humour, oh, qu'est-ce que t'es susceptible, oh là là, qu'est-ce que t'es une petite nature, oh, on peut rien te dire. » C'est extrêmement compliqué. Donc je pense que la première phase, c'est d'identifier et de se reconnaître en tant que victime et de reconnaître l'agression verbale. Et le deuxième temps, évidemment, c'est comment lutter contre. Alors, mon héroïne a la chance d'avoir une arme majeure qui est le verbe et qui est la plume et qui, contre la violence verbale, va utiliser sa propre arme qui est celle des mots puisqu'elle écrit. Mais ce n'est pas la chance de tout le monde. Et donc si j'ai une piste, une proposition qui est aussi dans le livre, je crois beaucoup à l'entourage. En fait, le grand ennemi des victimes de violence verbale, c'est évidemment la solitude. Parce que non seulement il n'y a pas de preuve à cette violence, mais en plus, comme on a l'impression d'être peut-être responsable, de ne pas mériter mieux, mon personnage à un moment se dit bah, « En fait, il me traite comme ça parce que je ne vaux pas mieux », on a honte. Et la honte isole, et la honte nous met dans le silence. Et ma narratrice a une chance folle, c'est qu'elle a un mari formidable. Et à un moment, n'en pouvant plus, elle lui raconte sa rencontre avec cet homme dangereux. Et elle lui dit « Je n'ai pas rencontré quelqu'un, je suis tombée malade. Ce n'est pas une rencontre amoureuse, c'est une maladie. Ce type est un cancer. T'es médecin, il faut que tu m'aides à en sortir. Je suis rentrée dans une espèce d'addiction. » Et Adam, qui est le premier homme... et qui est aussi le père de ses enfants, est absolument génial parce qu'il l'aime au point de comprendre ça. Il l'aime au point de ne pas être dans la jalousie, de ne pas être dans le... Il comprend que ce qui se joue là avec cet homme n'a rien à voir avec un rapport amoureux, mais à avoir avec son histoire, avec son enfance, avec son histoire personnelle. Et donc, il décide évidemment de répondre positivement à cette demande et de l'accompagner dans ce combat. Même si ce sera beaucoup plus compliqué qu'il ne l'envisage au départ. Et donc, ensemble, dans la deuxième partie du livre, ils vont se battre contre cet homme dangereux. Donc il va déjà essayer de faire le vide autour d'elle, de couper, de lui prendre son portable. Parce qu'il y a ça aussi dans le problème de... Je pense que la seule manière de gagner contre un pervers, parce que c'est un personnage de pervers, c'est de ne pas jouer. Et donc, c'est de fuir. Il n'y a pas d'autre solution face à la violence verbale. Pareil, c'est de fuir. Parce que le malade, ce n'est pas elle, c'est lui.
C'est sûr.
Et donc, comme lui ne décidera jamais de se soigner, c'est une histoire qui est pourrie. Et donc, il faut fuir. Mais quitter quelqu'un, c'est difficile. Et je pense que la chance de mon héroïne, c'est d'être aidée par son mari. Même si elle ne restera pas forcément avec lui jusqu'à la fin, mais c'est lui qui l'aide. C'est grâce à lui qu'elle écrit ce livre. C'est grâce à lui qu'elle se sort de cette histoire. Parce que d'abord, il l'éclaire. Il lui dit « Tu es une femme formidable. Il n'y a pas de raison que tu rencontres un type pareil. »
C'est vrai qu'il joue un rôle très très important dans la deuxième partie de votre livre. Et que, mais je veux dire, c'est un processus. Enfin, on voit quand on lit quand on arrive à la fin du livre, que c'est un processus très long et très difficile pour arriver à rompre définitivement, et qu'elle n'y arrive que par l'écriture.
Oui, elle y arrive par l'écriture, mais on y arrive aussi par la psychanalyse. On y arrive par la mise à distance. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir l'écriture, mais la psychanalyse, c'est à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est une fois seulement qu'on a compris pourquoi on est sensible à ça, que ça ne nous arrive plus. Par exemple, il y a des gens qui ont un terrain sensible à l'alcool. Bon, une fois qu'ils le savent, ils ne s'approchent plus de l'alcool. Dans les rapports humains, je pense que c'est pareil. Il y a des relations toxiques. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vous dans la vie.
Alors, moi, je vais faire un rapport avec notre association, Noah a osé le dire. On a des femmes qui nous racontent leur histoire et qui nous racontent qui ont été mariées plusieurs fois et qui, à chaque fois, reproduisent le même schéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles retombent sur des hommes violents.
Mais parce qu'elles ne se sont pas soignées. Parce qu'elles n'ont pas identifié le problème en elles. Donc, elles retournent vers ce qui les attire. Mais on peut être attiré par le mal. Enfin, je veux dire, c'est assez banal, finalement. Mais tant qu'on n'a pas identifié cela, tant qu'on va chercher en l'autre la faute permanente, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis sûre que cet homme dangereux, il est dangereux pour ma narratrice, mais il n'est pas dangereux pour quelqu'un d'autre. Un rapport se joue toujours à deux.
Oui, mais enfin, un homme pervers, c'est un homme pervers. Hein. Je veux dire, oui, effectivement, mais c'est pas forcément toutes les femmes qui vont réagir de la manière de votre narratrice, mais lui restera toujours un homme pervers.
Oui, mais il aurait pu très bien tomber sur une femme qui n'avait pas... qui aurait voulu jouer aussi, qui ne se serait pas investie autant, vous voyez, qui aurait peut-être voulu juste être amie, qui n'aurait pas eu désir pour lui. Mmh. Enfin, il y a toute une palette.
Émilie Fraîche, je vous remercie. J'invite les auditeurs et les auditrices qui veulent en connaître un peu plus sur le livre, qui est très intéressant, à acheter Un homme dangereux aux éditions Stock. Je vous remercie, j'espère que vous le lirez avec autant de plaisir que moi.
Merci beaucoup. Merci
de m'avoir. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission de l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre le lundi et le mercredi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55 01 47 07 39 55 et consultez notre site internet noahosezledire.fr. À bientôt.
À bientôt.